Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Nous sommes à plein dans cette fameuse période qu'on appelle la rentrée, bien qu'on se pose la question en ce moment, est-ce qu'on rentre ou est-ce qu'on sort? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font leurs cours en virtuel. Mais de toute façon, c'est une période qui est souvent très challengeante, qui nous amène des défis parce que on migre tout doucement vers une nouvelle saison, l'automne, qui sera parmi nous le 21 septembre. Alors, j'ai pensé inviter Iman Lalou, une docteure en naturopathie et qui est également autrice du livre « La santé en toute simplicité » parce qu'on a bien besoin d'un beau bouquet de vitalité, de bonne humeur, de nutrition et vous allez voir qu'elle déborde d'énergie. Je pense également aux professeurs qui sont partie prenante de toute cette grande aventure-là de la rentrée. Et j'ai pensé rejoindre Richard Leclerc, qu'on avait reçu il y a 2 mois, pour nous parler un peu de l'évolution du métier d'enseignant, oui, en contexte de pandémie, mais surtout au fil du temps. Iman Lalou, dans quelques instants. Docteur en sciences et technologies des aliments et naturopathe, Iman Lalou est passionné par le domaine de l'alimentation et de la santé. Ingénieure de formation et titulaire d'une maîtrise en génie chimique, elle est chargée de cours au département de génie alimentaire de l'Université Laval. Iman Lalou est autrice de plusieurs livres, dont « La santé en toute simplicité » et « La voie de l'équilibre » aux éditions du Dauphin Blanc. En parallèle de sa pratique privée, Iman Lalou donne également des conférences et des ateliers sur la relation entre l'alimentation, la santé et le bien-être. Et c'est d'ailleurs le sujet qui nous passionnera dans cette première demi-heure d'Au fil du temps. Bonjour Iman Lalou.
Bonjour Chantal.
J'ai cru comprendre que vous étiez une vraie passionnée de votre sujet.
Effectivement, je crois que la passion... C'est le moteur hein, au cœur de notre travail. Donc, la passion, c'est cette énergie, cette flamme qui motive notre créativité. Et puis, bon, c'est vrai, la passion, c'est ce qui a dessiné d'ailleurs ma trajectoire au niveau de mes études et puis maintenant au niveau de, je dirais, du développement de la partie santé globale de mon travail.
Et le titre de votre livre, « La santé en toute simplicité », je me demandais si c'était pas mission impossible. On entend souvent des gens réaliser que, bon, si on mange tel aliment, là ça déclenche certaines réactions par rapport à tel autre. Et je constate qu'il y a des gens qui semblent avoir des angoisses alimentaires. Donc, comment peut-on bien manger et être en santé en toute simplicité?
C'est une excellente question, Chantal. Mais je dirais que la mission impossible, c'est justement de vouloir prendre soin de sa santé d'une manière compliquée, comme ça l'est d'ailleurs actuellement. On est dans un contexte où on a énormément de connaissances. On n'a jamais eu d'ailleurs autant de connaissances et de technologies, de sciences, de recherches, d'études au niveau de la santé. Et bien sûr, on voit notre vie, je dirais, se rallonger au cours du temps. Les personnes vont vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans, mais on n'a jamais eu autant de maladies chroniques. Je pense que la mission impossible, c'est de vouloir prendre soin de sa santé en étant dans une vision qui est complexe. La simplicité, pourquoi? Parce que pour moi, c'est le retour, je dirais, aux sources, dans le sens où si on prend le temps dans une première étape, je dirais, de notre démarche, de nous positionner par rapport à soi et de nous poser les questions qui vont nous permettre de bien déterminer nos besoins et aussi les peurs, les angoisses, les insécurités, comme vous dites, eh bien, la démarche avec la santé et l'alimentation va se simplifier. Mais il est certain que quand on parle de santé et d'alimentation, si c'était seulement une question de connaissance, on n'aurait pas de problème. Parce que les émotions, les pensées, les croyances, nos conditionnements, nos habitudes rentrent en ligne de compte. C'est pour ça que c'est complexe. Mais à mon avis, on ne peut pas résoudre un problème complexe en rendant la chose plus complexe. C'est vraiment en ayant une attitude beaucoup plus présente, plus bienveillante, plus sereine, qu'on est en mesure doucement de démystifier et de comprendre que prendre soin de notre santé, quand ce n'est pas simple, eh bien, on n'y adhère pas. C'est toujours une corvée, c'est toujours un contrôle. Et dans cette mesure, je pense que pour moi, on ne peut être en santé que si on aborde une attitude bienveillante pour soi. Et donc, pour moi, la simplicité et la liberté, ça va avec ça.
Oui, c'est d'ailleurs passionnant justement dans votre livre que tous les liens que vous faites entre la santé qui est intimement liée à nos émotions, nos pensées, nos croyances, et vous décrivez bien là, l'état d'esprit dans lequel on doit être pour être en bonne santé. Et je me demandais comment tout ça évolue en vieillissant, comment nos besoins alimentaires changent et comment l'attitude autour de notre relation à l'alimentation change en vieillissant.
Ah, j'adore cette question. Ben, je dirais évidemment, c'est un parcours qui est personnel à chacun d'entre nous. Et au cours du temps, bien sûr, le corps vieillit, mais il y a quelque chose qui est vraiment fabuleuse avec ce processus de vieillissement, c'est vraiment la sagesse, les apprentissages.
Oui.
Les expériences qui vont s'accumuler au cours du temps et qui vont justement hein, nous amener vers une simplification de notre vie. Quand on voit, par exemple, certaines personnes à 70 ans qui nous regardent avec un sourire très tendre en nous disant, ben, tu sais, Imane, tu devrais prendre soin de tes priorités. Tu sais, Imane, parce qu'ils ont compris quelque chose. Donc, bien sûr, la relation avec soi évolue. Donc, au cours du temps, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont flétrir au cours du temps, dans le sens où leur corps va vieillir, mais elles vont flétrir à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ça dépend de la personne, de son attitude, de son alimentation et aussi des expériences. Des fois, la vie est imprévisible. Il y a des accidents, il y a la maladie. Donc, on peut pas. La santé, c'est pas une garantie. La santé, c'est comme l'amour. C'est un parcours. Et ce qui est certain, c'est que si on ne prend pas soin de notre santé, c'est certain qu'on va flétrir au cours du temps. Et si on prend soin de notre santé, eh bien, petit à petit, quand on regarde les personnes qui vont arriver à 50, 60, 70 ans, ben, c'est très rare qu'elles mangent un sac de chips au complet. Parce qu'il y a quelque chose qu'elles ont peut-être décodé. Et peut-être qu'elles vont moins vite. Peut-être qu'elles prennent plus de temps pour prendre soin de leurs enfants. Elles ont peut-être compris, saisi l'essentiel de la vie. Et la résonance avec la santé et l'alimentation devient peut-être aussi plus précieuse avec le temps. Parce que à 40 ans, on a l'impression que tout est possible, notre capital est énorme. Mais peut-être qu'avec le temps, on réalise que, oups, je commence à avoir mal au dos, etc. Donc, peut-être que l'idée, c'est d'aller en prévention et de ne pas attendre de sentir que notre santé est en train de nous filer entre les doigts pour prendre soin d'elle.
En fait, vous faites même un lien entre la joie de vivre et l'alimentation. Je suis curieuse de vous entendre là-dessus.
Alors, il y a une question, Catherine, Catherine, c'est notre recherchiste hein, pour les auditeurs, donc c'est pour ça que j'ai une confusion, Chantal. Les personnes, par exemple, on va parler de frites, de crème glacée, de biscuits double chocolat, de chocolatine, puis ils vont vous dire, oui, mais c'est bon. Donc, le plaisir, si on mange trop, c'est parce qu'on recherche cette expérience au niveau du plaisir. On est d'accord avec ça? Donc, le point de départ, c'est que l'alimentation crée une dépendance chez les personnes, chez beaucoup de monde d'ailleurs, comme la cigarette, comme l'alcool, etc., l'alimentation est un des réflexes les plus faciles à choisir pour sécuriser notre système nerveux, calmer notre corps, calmer les angoisses, les insécurités, etc. Et le plaisir est une expérience qui est instantanée. Donc, je mange mon chocolat. Après le chocolat, je vis une expérience de plaisir. Mais si je ne répète pas l'expérience avec le chocolat, eh bien, le plaisir s'arrête. Donc, le plaisir est toujours stimulé par un élément extérieur dans notre vie. On a dans notre vie plusieurs sources de plaisir. Le plaisir fait appel au sens, à notre sensorialité. Et quand on a des carences au niveau de notre univers affectif, émotif, eh bien évidemment, on va compenser au niveau des plaisirs. Donc, des fois, boire plus d'alcool ou manger plus ou aller plus au centre d'achat, etc. La joie, c'est un état. C'est un état d'être. C'est un état qui émane de notre être. C'est une expérience comme l'amour, dans le sens où la joie, c'est un sentiment qu'on ne peut pas commander. On ne peut pas dire, je vais manger du chocolat, puis je vais ressentir du plaisir. Je ne peux pas dire, tiens, aujourd'hui, je vais ressentir de la joie. Je peux être en train de danser, puis ressentir de la joie. Je peux être en train de marcher, puis de regarder les étoiles et ressentir la joie. Je peux ressentir la joie parce que j'ai beaucoup de gratitude pour une expérience. Puis je peux ressentir de la joie pour aucune raison. C'est quelque chose qui nous amène dans un état de plénitude. Alors, la joie nourrit l'être.
Tout
Et quand
comme la musique, Imane, tout
Bien
comme la
sûr!
musique.
Voilà!
On va d'ailleurs faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après ensemble pour poursuivre cette belle discussion sur les plaisirs de l'alimentation et de la santé.
Avec grand plaisir.
Imane Lalou, heureuse de vous retrouver. On parlait juste avant la pause musicale des sens. Comment les sens contribuent à l'alimentation? Et je suis curieuse, vous êtes originaire du Maroc, je crois, comme ma belle-maman Leila, que je salue. Et je sais que les fruits et les légumes sont toujours gorgés de soleil. Je me demande quel lien on peut faire entre l'alimentation et la culture.
C'est un lien qui est, je dirais, immédiat. Chaque pays, chaque culture a sa propre alimentation. Donc, on découvre un pays, on découvre sa culture, on découvre son alimentation. Donc, dans le cas du Maroc, je crois que c'est un des pays qui se distingue justement par non seulement sa richesse en soleil, en fruits et légumes, etc., mais aussi sa gastronomie. C'est un pays qui est particulièrement, je dirais, effervescent par ses saveurs, par ses épices, par ses fines herbes. Donc, un pays de par ses couleurs, de par notre éducation, vient aussi nous conditionner par rapport non seulement à nos goûts, mais aussi par rapport à notre façon de manger. On mange avec la main, on mange avec les baguettes, etc. Et en même temps, ce que j'adore dans les expériences culinaires à travers le monde, c'est un trait d'union, c'est un langage, comme la musique d'ailleurs, dans le sens où je vous invite chez moi, Chantal, et puis bon, ben voilà, on mange un tagine ensemble ou une soupe à la marocaine, la fameuse harira, ben on partage ensemble une partie de ma culture, donc je partage avec vous une partie de mon pays. Et quand on s'assoit à table ensemble, on sait combien ce langage-là est très symbolique au niveau des humains. Donc, chaque pays, je crois, porte en lui, je dirais, une signature. Et en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, et même quand on quitte notre pays depuis des années, eh bien, moi, je continue à boire de la menthe fraîche presque tous les jours ici au Québec. Donc, pour dire à quel point c'est ancré à l'intérieur, je dirais, non seulement de mes souvenirs, mais aussi de mon appréciation de certaines saveurs.
Absolument, et je regarde ma relation avec ma belle-mère Léla, elle m'a fait découvrir beaucoup la cuisine marocaine, un paquet de petits rituels, la date avec le lait pour accueillir les invités, le salon marocain où on prend le thé, la musique, d'ailleurs on en a entendu à la pause de la belle musique marocaine, et j'ai envie de faire un lien peut-être avec le terme épicurien qui est pas toujours bien compris par les gens.
Ah, j'adore cette question, Chantal, mais tellement une belle question.
On travaille bien, Catherine et moi.
On parlait tout à l'heure de la joie. Eh bien, la joie amène cet état de plénitude. Donc, quand on nourrit l'être, il y a quelque chose en nous qui est satisfaite. Donc, en fait, ce n'est pas vrai qu'Épicure, quand on voit ses écrits, et Frédéric Lenoir, d'ailleurs, en parle très bien, Épicure ne prônait absolument pas des grandes quantités. Être épicurien, c'est vraiment une expérience sensorielle où on s'abandonne en fait pour vivre à travers les saveurs, les épices. Et qui dit plaisir épicurien dit petite quantité.
Oui.
Parce qu'on le sait très bien que la moitié du sac de chips, on sait même plus que goûte les chips. Donc, épicurien veut dire vraiment une aventure, je dirais, sensorielle avec une liberté. La liberté de s'arrêter. On prend un peu de vin, par exemple, et on s'arrête. On déguste un ou deux carrés de chocolat, on s'arrête. Donc, pour moi, c'est ma compréhension de la philosophie d'Épicure.
Mais en fait, je ne suis pas surprise de savoir que vous avez participé au développement du volet santé globale du monastère des Augustines dans le Vieux-Québec. Parce que justement, si on pense à petit plaisir, à pleine conscience, à prendre le temps de méditer,
tellement.
Ben je pense spontanément justement aux moines ou aux religieux ou aux bouddhistes là, qui s'arrêtent et qui sont dans la pleine conscience. Et on voit ce courant-là aussi dans l'alimentation, la pleine conscience quand on mange, de prendre le temps de bien déguster. Donc, j'étais curieuse de vous entendre là, sur cette expérience-là. Là, quel lien on peut faire entre pleine conscience, un petit tour au monastère et l'alimentation.
Le mot qui me viendrait, Chantal, c'est l'unité, l'unification en fait de plusieurs, je dirais, points culminants dans notre vie. Dans le cas du monastère des Augustines, comme d'autres monastères, je dirais le passé, le retour aux sources, les médecines ancestrales et les médecines contemporaines, venir finalement fusionner je dirais justement les générations et aller bénéficier de ce savoir, de ces expériences de nos ancêtres, et dans ce cas particulier des Augustines, et de rendre ça accessible pour que nous, avec notre expérience ici et maintenant en 2020, on est en mesure de l'intégrer dans notre présent. Et je dirais que ce soit la méditation pleine conscience ou la méditation pour les moines ou les Augustines, etc., c'est une présence attentive. Et j'aime ajouter une présence attentionnée pour soi et pour les autres. Donc, cette présence à soi a eu tendance à se dissiper à travers le temps et cette grande fébrilité qu'on a vécue peut-être au cours des 50-60 dernières années a été tellement intense que l'être humain et les sciences aussi se sont intéressés à cet arrêt, ce temps de pause, autant pour le corps que pour le cerveau, et c'est ce qui a d'ailleurs amené les sciences, notamment Jon Kabat-Zinn, qui a été un très grand précurseur dans l'expansion de la pleine conscience, et maintenant les sciences viennent démontrer, je dirais, par des données scientifiques, ce bien-être qui devient de plus en plus palpable au niveau de la gestion du stress, l'anxiété, le vieillissement aussi, ou le ralentissement des processus de vieillissement, je devrais dire, parce que vieillissement, c'est pas une fatalité, on vieillit tous, ça c'est un privilège de vieillir, c'est de bien vieillir et d'embellir notre vie qui est finalement le véritable défi. Et ces moments de pause, je dirais en même temps, oui, bien sûr, ça a traversé l'histoire, mais je crois que ça a toujours fait partie de l'humain et de notre propre histoire, autant individuelle que collective.
Imane Lalou, très, très concrètement, présentez-nous des exemples de recettes aussi qu'on peut trouver dans votre livre « La santé en toute simplicité ». Moi, je regardais ça et j'avais le goût de cuisiner.
Alors, la signature de mon livre, je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas Ricardo. En fait, moi, je m'amuse à la cuisine. L'idée, c'était d'amener les personnes à préparer en 10-15 minutes des repas qui unissent le plaisir et la santé dans la même assiette. Donc, la signature, c'est la vitalité, jouer avec des saveurs. J'apprends aux gens à jouer avec les 5 saveurs, sucré, salé, acide, amer et piquant. Et bien sûr, utiliser des ingrédients qui sont frais, naturels et les juxtaposer ensemble pour créer des repas gourmets, justement, épicuriens. Alors, un exemple, bien sûr, j'ai des smoothies, bien sûr, j'ai des jus de légumes aussi que je vous propose, mais j'ai aussi un saumon grillé avec une marinade qu'on prépare en 5 minutes, des spaghettis avec des zucchinis servis avec de la bruschetta. Donc, c'est des recettes en fait qui vous amènent à explorer autant la partie des vinaigrettes, la partie des petites douceurs, comme je les appelle, parce que je crois que les desserts, c'est pas seulement après le repas, on devrait peut-être les prendre en dehors des repas. C'est pour ça que je les ai appelées les petites douceurs. Donc, en fait, il y a peut-être 5-6 recettes par catégorie pour vous donner la possibilité, par exemple, de préparer une mousse au chocolat ou des truffes au chocolat en 10-15 minutes. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et mon fils pourrait en témoigner. Je passe tant de temps en cuisine, mais j'adore cuisiner, j'adore m'amuser. Et je dirais, ce serait peut-être ça, en fait, le message. Oui. C'est que je vous amène dans une expérience qui est passionnante, libre. Et c'est vous qui explorez et surtout, vous devenez autonome.
Ben moi, avec bon goût et rapidité, tout en mangeant lentement, vous m'avez eu complètement. Alors, Imane Lalou, vous nous donnez envie de goûter pleinement à la vie. Merci d'avoir partagé ce temps avec nos auditeurs. Je leur souhaite vraiment de découvrir tout ce que vous avez à partager parce que vous êtes une personne rayonnante là, qui nous donne envie de prendre notre santé en main dans la joie et le plaisir.
Un grand plaisir pour moi, Chantal. À vous, chères auditrices, chers auditeurs, prenez soin de vous. Et c'est vraiment un grand bonheur pour moi d'avoir partagé ce petit moment avec vous.
Merci. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
c'était Silence d'Indy Zara, une prolifique artiste marocaine. Si vous voulez réécouter les autres émissions d'Au fil du temps, rendez-vous sur canalem.vusevoix.com ou encore sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify, Google Play Music ou Apple Balado.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Dans cette deuxième demi-heure, je cause de l'évolution de l'enseignement avec Richard Leclerc, spécialiste en communication et marketing sociétal et professeur à l'Université de Montréal et l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Et là, il va nous raconter comment il vit ça avec la pandémie. Alors, d'abord, une petite pièce destinée à ses étudiants. L'âge des possibles de Marie Espinoza.
On déroule les jeunesses, mais c'est l'embouteillage, mais mes feux de détresse. Pour sortir de mon âge, je veux pas qu'on me laisse sur une voie de garage. La vie passe sans vitesse et en caisse pour finir à la casse. À la casse. Embourbé dans ce guépier, au carrefour de la chance, je lance les dés. Je fonce, après je pense, je me défonce, je me démène, sans savoir où ça mène, sans savoir où je m'enfonce. Je suis toujours à la traîne. La lune, la lune. Et je lutte et je chute, je marche et j'en crève. Quand je monte le but, je tombe, je me relève. Je ne sais pas le comment, du pourquoi. J'ai la vie devant moi. Devant moi. La valeur n'attend pas le nombre des années. Pourtant moi, j'attends là, sans me faire remarquer. Devant moi, je ne vois que les portes fermées et mes rêves sans emploi. Ils me servent à quoi ? À quoi ? J'ai peur, mais j'avance. Tant pis si rien n'est sûr, qu'on me donne ma chance. Ou je vais dans le mur, car la vie qui commence, c'est la vie à la dure, le temps de l'innocence. Non mais je vous jure, je vous jure. C'est l'âge des possibles, j'en gravirai les cimes. Cœur vaillant, invincible, et même si je m'abîme, si j'y laisse des plumes, je décrocherai la lune. Chute, je marche et j'en crève. Quand je manque le but, je tombe, je me relève. Je ne sais pas le comment, du pourquoi. J'ai la vie devant moi. Devant moi. Ignorance, impuissance, espoir fou et détresse. Et aussi l'arrogance, la force, la faiblesse. Arrêtez vos romans sur la belle jeunesse. Si vous l'aimez tellement, je vous la laisse. Eh bien, je vous la laisse.
On avait eu le plaisir de recevoir mon prochain invité, Richard Leclerc, le 14 juillet dernier, en compagnie de sa conjointe, la députée de Shefford, Andréanne Larouche. Nous avions discuté abondamment d'engagement dans la société. Et là, comme nous sommes en pleine rentrée, je me suis rappelé que Richard avait tellement, non seulement une belle voix de radio, mais qu'en plus, il comprend très bien ce sujet-là parce qu'il le vit lui-même étant professeur. Bonjour, Richard.
Bonjour, ça va?
Oui, ça va très bien. Vous voyez que c'est vrai qu'il y a une belle voix de radio.
Bon, j'ai dit trois mots.
Mais les auditeurs se rappelaient t'avoir entendu. Et s'ils ne t'ont pas entendu, je leur dirais, allez réécouter cet épisode-là du 14 juillet dernier.
Bon.
Richard, comment ça se passe, la rentrée, là, en pleine pandémie, pour un enseignant?
Mais en fait, là, on commence la session à distance. Mmh. On l'avait terminée à distance, mais la différence, c'est que la dernière fois, j'avais commencé en présentiel, comme on dit maintenant. Et donc, j'avais eu l'occasion pendant 7 semaines de rencontrer des étudiants des 2 cours que je donnais. Mais cette fois, je ne les rencontre pas. On commence avec la distance et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Je commence lundi.
OK. Donc, t'as pas eu vécu encore, là. Comment tu te prépares à vivre ça pour essayer d'établir ce contact-là?
Bien, en fait, l'Université de Montréal, où j'enseigne, a quand même pris des moyens intéressants, c'est-à-dire que je vais avoir droit à une modératrice qui va pouvoir lire les commentaires des étudiants pendant que je donne le cours sur Zoom. Donc, il va y avoir finalement la possibilité de recevoir de la modératrice les urgences, si je peux dire, les questions urgentes ou les plus... Les celles à laquelle je devrais répondre en priorité. En tout cas, on va voir. On commence quelque chose de nouveau.
Donc, celui-là qui lève la main haut en classe, là, il va le faire dans le chat.
C'est ça. Mais l'autre aspect aussi dont on doit tenir compte, c'est que j'ai quand même un bon pourcentage de la classe qui ne vit pas ici présentement à cause de la pandémie. Donc, moi, mon cours qui commence à 16 heures, va commencer à 22 heures à Paris.
Ah oui, hein?
Alors, il y a toutes sortes d'adaptations à faire, comme tu peux voir. C'est quand même incroyable. Le décalage horaire prend toute son importance avec quelques étudiants qui sont africains ou quelques étudiants français ou belges. On se retrouve finalement avec un décalage horaire, mais il y aura aussi la possibilité je vais tout enregistrer les Zooms chaque fois. Et les étudiants qui finalement peuvent pas écouter à 22 heures pourront le faire le lendemain matin à leur aise. Alors, c'est ça, on s'adapte.
Et est-ce que tu donnes aussi tes cours aux universités africaines?
Mais là, je te dirais que la dernière fois que j'y suis allé, c'était en février dernier. Et quand j'enseigne à Alexandrie en Égypte, c'est une fois par 2 ans. Sinon, je vais aussi enseigner, et on m'envoie dans les pays d'Afrique de l'Ouest pour faire le même enseignement, mais pour l'instant, ça, c'est vraiment là, retardé. Là. Il n'y a pas de mandat pour l'heure. Je ne pense pas enseigner en Afrique au moins cette année, sinon... Pas avant, probablement, fin 2021. Là, tout est un peu, sinon à distance. Il est possible, malgré tout, que je reprenne des cours, mais j'ai fait déjà une conférence à Rabat, au Maroc, il y a 3 semaines, à distance. Alors, on vit dans un autre monde présentement, là.
Absolument. Et là, là, je vais t'emmener à reculer un petit peu plus dans l'histoire parce que là, tu dois t'adapter beaucoup en ce moment. Mais je serais quand même curieuse de voir, depuis que tu es enseignant, puis disons jusqu'en février 2020, là, quel changement tu avais observé dans le rapport du professeur avec ses étudiants, dans comment ça a évolué le métier d'enseignement?
Bien, d'abord, je dois dire que ça fait... Je commence ma 36e saison, année d'enseignement à l'Université de Montréal. Alors, il y a des changements, en effet, importants. Je me rappelle le premier cours que j'ai donné à l'Université de Montréal en 1984, je travaillais avec des acétates sur un rétroprojecteur. Là, tu vois? Alors, on s'entend que on n'est plus dans le même dans le même média. Aujourd'hui, c'est des PowerPoint, et puis mais en plus, comme tu dis, on va parler du passé, mais là, avec la distance sur Zoom, là, on est vraiment dans des changements importants.
Bien, en fait, tu sais, nos auditeurs plus âgés savent de quoi tu parles, mais je suis à peu près convaincue que les plus jeunes, quand on dit le mot acétate, ils doivent avoir aucune idée.
Acétate et rétroprojecteur, c'est quoi ça?
On va leur laisser chercher, tiens.
Oui, bon. Mais puis l'autre différence aussi, en 84, j'enseignais à la Faculté d'éducation permanente, où j'enseigne encore, mais à cette époque-là, c'était vraiment des adultes qui suivaient les cours. Moi, j'enseigne en publicité, un métier que j'ai fait depuis plus de 40 ans, et les étudiants venaient jusqu'à un certain point suivre des cours pour pouvoir améliorer leur sort à l'intérieur de l'industrie publicitaire. Aujourd'hui, j'enseigne au baccalauréat, donc les étudiants sont au début de la vingtaine, et même au niveau de l'éducation permanente, c'est aussi jeune. C'est vraiment là, il y a eu un rajeunissement de la population, si je peux dire, même au niveau de la faculté de l'éducation permanente. Alors, les étudiants sont plus jeunes et je dois finalement m'adapter à la situation. C'est-à-dire que moi, 65 ans, si je veux parler de réseaux sociaux, il faut que je sois à jour. Donc, ça m'oblige finalement à rester jeune. C'est très bien.
Bien, en fait, t'es très, très actif aussi là, sur beaucoup de plateformes. Et je me disais, avec ces 36 ans-là d'expérience, t'es probablement au cœur de tous ces préjugés-là là, qu'on dit sur les nouvelles générations, parce que toi, t'as enseigné à des jeunes. Bon, là, tu dis ça rajeunit, mais il reste que t'as vu plusieurs générations de jeunes. Qu'est-ce que tu peux constater comme changement?
Ben, je dirais que eux aussi sont sur les réseaux sociaux, très présents sur les réseaux sociaux. Une des choses que je constate, et ça, c'est pas nécessairement un souhait que j'avais, là, mais pendant les cours, beaucoup d'étudiants naviguent sur leur ordinateur. Alors ça, c'est un peu agaçant parfois de pas avoir l'attention de tout le monde dans la classe. T'sais, à l'époque, en 84, il n'y en avait pas de réseaux sociaux, il n'y en avait pas d'étudiants. Ils regardaient les acétates, disons.
Là, tu ne peux plus te promener avec une règle puis leur taper sur les doigts.
Non, pas à ce niveau-là. À l'université, en principe, on est supposé suivre le cours sans avoir ce genre de problème. Mais c'est ça. Là, c'est un constat que je dois faire. Puis c'est une chose dont on discute souvent dans les rencontres entre enseignants, parce que c'est pas juste dans mon cours que ça se passe, là, ça se passe dans la plupart des cours. C'est drôle à dire, mais j'ai l'impression que très souvent, ce qu'on veut, c'est avoir une excellente note, mais on n'est pas prêt à mettre tous les efforts que je pouvais constater il y a quelques années. Puis, je peux me permettre cette comparaison-là également parce que, comme tu le sais, j'enseigne à l'extérieur du Québec. Et la différence est très grande. L'appréciation de l'enseignement quand je me retrouve à Alexandrie ou bien en Côte d'Ivoire ou à Dakar, c'est sûr que quand je m'en vais là-bas, je m'en vais là pour une semaine ou deux. Mm-hmm. Ce sont des cours qui sont très concentrés, très rapides. En fait, on doit agir rapidement, donner 45 heures de cours en une semaine ou deux. Là, c'est beaucoup d'heures par jour. En fait, en une semaine, c'est pas 45 heures en réalité. Là, c'est la moitié. Mais les étudiants qui s'inscrivent à ces cours, ils sont très, très attentifs. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, naturellement, dans ces échanges-là, c'est ce que j'appellerais le partage. Parce que moi, j'arrive là-bas avec une connaissance. Je leur enseigne comment créer des campagnes de communication. C'est mon métier. Mm-hmm. Je sais comment ça fonctionne. Mais on fait toujours, que ce soit à Montréal comme à l'extérieur, on travaille toujours sur un cas réel. Et naturellement, les cas que je vis en Afrique me donne beaucoup d'informations que je n'avais pas. Tu sais, dans le fond, quand je donne un cours, particulièrement en Afrique de l'Ouest ou en Égypte, j'apprends. J'apprends peut-être autant, sinon plus, que ce que je donne. C'est vraiment extraordinaire. Tu sais, c'est ce que j'apprécie beaucoup, en fait, dans ces échanges-là. À Montréal, évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. À Montréal, je donne un cours, j'essaie de partager ma passion pour les communications avec les étudiants, mais il y a comme ce que j'appellerais, on parlait de décalage horaire tantôt, là je vais parler de décalage au niveau de l'appréciation. Je sais pas, il y a quelque chose en ce moment qui se passe peut-être moins ici. Je sais pas si les jeunes sont trop choyés. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est très différent entre l'appréciation que je reçois de mes cours à l'étranger comparé à ici.
Ben, c'est toute la stimulation aussi. Je me rappelle mon fils, quand je souhaitais l'emmener faire des activités, il était déjà allé à tel endroit avec la maternelle, il était allé à tel autre endroit. C'est comme une espèce de désabusement. On l'a vu, on l'a su, on l'a lu. Très, très, très stimulé déjà. Et donc, comment ça affecte, tu disais que tu en parlais avec d'autres enseignants, ça fait en sorte que vous devez, à la limite, quasiment devenir des humoristes ou pour garder cette attention-là?
Oui, bien, des humoristes, en fait. Oui, je me permets d'avoir quelques jeux de mots dans mes présentations, puis... Mais on n'est pas là pour faire des shows, là, tu sais. Ouais. On est là pour transmettre l'information. Et oui, c'est un peu ce que je constate, c'est que sur une classe de 60, comme je commence lundi prochain, tu as entre 10 et 15 personnes qui sont très, très, très intéressées au cours. Puis il y en a 10 qui, des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils font là, tu sais. Entre les deux, il y a comme une masse, là, d'à peu près 40 personnes qui sont là, ils doivent suivre des cours, ils ont besoin de crédit pour passer leur baccalauréat, puis tout ça. Mais il y a vraiment un écart entre ce que j'appellerais les premiers qui sont très assidus et les derniers qui parfois, en tout cas, moi j'enseigne en communication, puis il y en a qui savent même pas écrire.
Ouais, c'est particulier.
Et là, le problème que j'ai, moi, c'est comment ont-ils fait pour passer à travers toutes les mailles du système pour être assis dans cette classe-là? Je me dis, ça se peut pas. Il y a un examen d'entrée, en principe, pour aller étudier à l'université. Puis je me dis, comment ont-ils fait? Est-ce que c'est des examens ABCD? C'est quoi la pièce?
Oui. Ben écoute,
fois, c'est très surprenant.
C'est toute une discussion là sur la teneur, la saveur, l'éducation. Mais peut-être en terminant, j'ai envie de te demander, toi, tu as entrepris des études supérieures en maîtrise, c'est ça?
Oui, bien oui. 40 ans plus tard.
Alors, quelle sorte d'étudiant es-tu?
Ben, écoute, je vais voir. Ça aussi, j'ai commencé il y a 2 semaines maintenant, là. Mais... Tu vois, moi, j'ai fait ma scolarité de maîtrise en 78 et 79 à l'Université de Montréal. Et en 80, j'ai tout de suite été happé par le monde de la publicité. J'ai jamais eu le temps de rédiger mon mémoire. Donc, j'ai une scolarité de maîtrise, mais j'ai jamais rédigé. Et 40 ans plus tard, je me retrouve finalement avec la possibilité de rédiger parce que à 65 ans, le nombre de contrats que j'avais, ça a diminué un peu. Et comme tu le soulignais tantôt aussi, ma conjointe est maintenant députée de Sheffield, alors ça me donne un peu plus de latitude pour pouvoir finalement reprendre des cours. Et en tout cas, je suis assidu. Je veux dire, j'ai des lectures, j'ai commencé mes travaux. Et je te dirais aussi que ça aussi, c'est un partage intéressant. C'est-à-dire que les gens qui m'enseignent sont des collègues.
Oui.
Parce que je fais une maîtrise en communication, puis j'enseigne au département de communication. Des étudiants avec qui je suis assis virtuellement dans une classe à distance, je leur ai déjà enseigné.
Ah oui, hein?
Ah oui, là, je suis un drôle de moment. Mais finalement, je regarde les plans de cours de mes collègues et ça m'inspire. T'sais, moi, dans le fond, encore une fois, je parlais de partage tantôt, surtout au niveau africain, mais là, je partage avec des collègues des plans de cours et ça va probablement bonifier mon propre plan de cours. Alors, peut-être que mes étudiants au baccalauréat vont être plus intéressés par les cours que je vais donner ces prochaines sessions.
Ben écoute, c'est tout le bonheur du partage intergénérationnel, interculturel. Alors, on te souhaite une belle rentrée, Richard, et on pourra peut-être se reparler un peu plus tard dans la saison sur voir un peu ta perception de l'évolution de la publicité au fil du temps.
Oui, sujet très intéressant aussi.
Alors, on se dit à bientôt. Bonne rentrée. Au revoir.
Ben merci beaucoup. Au plaisir.
Au plaisir.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. Contre lui, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques.
Que de
travail,
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Au lieu de nous ennuyer avec la géographie.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées.
Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé,
participe passé.
4 et 4 font 8.
4 et 4 font 8.
Leçon de français,
leçon de français.
De mathématiques,
de mathématiques.
Que de travail,
travail.
Sacré, 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 sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis.
Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne.
Vous écoutez Au fil du temps.
C'était Sacré Charlemagne de France Gall. En fait, c'est son père, Robert Gall, qui a écrit cette chanson-là. C'était donc un choix intergénérationnel tout à fait approprié pour Au fil du temps. Et semble-t-il qu'il a écrit cette chanson-là parce qu'il se rappelait que France avait écrit « Vive Charlemagne » dans l'ascenseur de l'immeuble. Alors, c'est un petit peu par réaction là au petit mauvais coup de sa fille que Robert Gall a écrit cette chanson-là. Et au début, semble-t-il que France Gall, ça ne lui tentait pas de la chanter. Mais elle a décidé de la faire quand même et c'est devenu numéro 3 en France. Et ça me fait penser un petit peu à My Heart Will Go On, la fameuse chanson du Titanic. Paraît que Céline, ça lui tentait pas de la chanter non plus, et puis c'est devenu le succès qu'on a connu. Alors, des fois, ça arrive comme ça dans la vie, des changements de trajectoire. Et il y a une chanson que j'ai envie de dédier à mon invité Richard Leclerc, qui a eu le courage comme ça d'entreprendre une maîtrise à 65 ans. Alors, c'est une pièce de Tino Rossi qui s'appelle « La vie commence à 60 ans ». On écoute ça.
« comme autrefois nous l'avons été. La jeunesse est pressée, elle a ses problèmes et ses soucis, nous les avions aussi. L'existence est une affaire de patience, où chaque âge a ses plaisirs, où il faut savoir vieillir avec le sourire. La vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on pose, de s'approcher plus près des choses. Les filles sont compliquées de nos jours, elles le seront toujours. Toutes celles que j'ai connues dans le temps m'en ont fait voir autant. Puis un jour vient le grand amour. On fait le chemin à deux et la tendresse peu à peu nous rend plus heureux. Car la vie commence à 60 ans, quand on la connaît mieux qu'avant, et que l'on a appris par cœur tous les raccourcis du bonheur. La vie commence à 60 ans, quand on peut prendre enfin le temps de répondre aux questions qu'on pose, de regarder plus près les choses. La vie commence à 60 ans, quand on se réveille en chantant, avec une voix toute neuve et un moral à toute épreuve. Quand on a encore tout à faire, planter ses roses, être grand-père, chaque instant est un commencement. La vie commence à 60 ans, la vie commence à 60 ans.
La vie commence à 60 ans de Tino Rossi. Ben moi, ça m'encourage une chanson comme ça, vu que j'ai 51 ans. J'ai beaucoup aimé l'expression « raccourci du bonheur ». Et je pense qu'en cette période de rentrée, des raccourcis sauvetants, on en a besoin plusieurs. Alors, c'est ainsi que se termine cette 14e émission du Au fil du temps, l'émission qui relie les générations. Merci beaucoup à toute l'équipe de Canal M, Louis Garon, chef d'antenne, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche. La semaine prochaine, on reçoit la rédactrice en chef du magazine Le Bel Âge. Très, très entrevue qui m'enthousiasme beaucoup parce qu'ils ont fait une recherche qui est très enthousiasmante. J'ai hâte de recevoir Aline Pixteren. Également, on parle d'une initiative, d'un projet de lettres entre des ados et des aînés de Montréal-Nord. Alors, bonne semaine à vous!